session de philosophie de l'activité artistique à Rimont, le 22 décembre 1993. Première conférence par le père Jean-Marie Laurent.
Voilà, alors nous allons essayer ensemble d'entrer dans la philosophie du travail, essayer de porter un regard philosophique sur le travail. Mon rôle est de vous introduire dans le sujet, d'essayer de mettre un petit peu toutes les briques à leur place, et ensuite le père Philippe, je crois à partir de demain matin, peut-être déjà ce soir, j'en sais rien, mais en tous les cas demain matin, va continuer. Donc en fait, pour moi, il s'agit d'être relativement simple et de tracer un petit peu le tableau, pour voir dans quel cadre on se situe, et puis alors après, le père nous fera plonger à l'intérieur de la vérité, ou alors, si vous préférez, il nous aidera à nous élever un peu plus haut que ce que je serai capable de faire. N'hésitez pas à poser des questions. Ça, il ne faut pas hésiter. C'est quand même, comme on nous le rappelle toujours, un cours est une coopération. On n'est pas là pour faire un discours pour que les gens pieusement nous écoutent, mais on est là pour essayer de répondre aux interrogations des uns et des autres. Cependant, dans l'après-midi, nous aurons une séance qui sera consacrée aux questions. Et je pense qu'on divisera l'assemblée en différents groupes, parce que je crois que parmi vous, il y en a qui n'ont pratiquement jamais fait de philosophie, d'autres qui sont un peu plus avancés, et peut-être certains qui sont très avancés. Donc on verra comment on essaiera de diviser un peu les groupes pour pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres. Mais, encore une fois, n'hésitez pas, si vous en sentez le besoin, de poser des questions pendant l'exposé. C'est très important. Bon, alors, vous savez qu'on emploie un certain nombre d'expressions différentes pour parler de ce dont nous devons parler. On parle de philosophie de l'art, on parle de philosophie du travail, on parle de philosophie du facere, du mot latin, donc facere, le faire, où on parle encore de l'activité artistique. Tout ça sont des expressions qui sont plus ou moins équivalentes, enfin qui désignent la même chose. Bon, mais qu'on ne pourra employer les unes ou les autres, enfin suivant les cas, on verra. La philosophie de l'art est certainement le moyen d'entrer le plus facilement en philosophie. La philosophie est quelque chose de complexe. Elle est à la fois une et complexe. Elle est une, pourquoi ? Parce que le but de la philosophie, c'est quoi ? C'est de mieux connaître, de mieux comprendre ce que c'est que l'homme et donc nous-mêmes. Mais comme l'homme est une réalité complexe, comme l'homme a une vie, une existence qui est complexe, comme l'homme accomplit différentes activités qui sont complexes, différentes les unes des autres, la philosophie prend différentes dimensions en fonction justement de ces grandes activités qui constituent ce que nous sommes, ce que nous faisons, notre vie. Alors pourquoi commencer la philosophie par la philosophie du travail? Pourquoi pas commencer la philosophie par la morale? Socrate est le père de la morale et on dit en même temps qu'il est le père de la philosophie. Rappelez-vous la grande question de Socrate, connais-toi toi-même? Et pour Socrate, se connaître soi-même, c'est d'abord et avant tout connaître ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. En fait, avant Socrate, il y a eu d'autres philosophes qui n'ont pas commencé. La philosophie n'est pas née avec la morale. La philosophie est née avec la cosmologie. La philosophie est née d'abord comme une nouvelle vision du monde. Les Grecs ont commencé à réfléchir sur le monde dans lequel ils se trouvaient et ont essayé de découvrir à Milet de quoi il était composé. Bon, en fait, on peut effectivement entrer en philosophie de différentes manières, mais on entre plus facilement en philosophie avec l'expérience du travail, avec la philosophie du travail, parce que c'est certainement parmi nos activités l'activité la plus fondamentale. Alors, on peut discuter, en fait, sur l'affirmation suivante, à savoir quelle est l'expérience première, génétiquement, parmi, disons, l'activité, la première activité que nous avons faite. Il y a deux types d'activités fondamentales, l'activité morale, donc avec toute la dimension de l'amour, et puis l'activité du travail. Alors, est-ce qu'on a commencé à aimer avant de commencer à travailler, ou est-ce qu'on a travaillé avant de commencer à aimer? Bon, on ne va pas entrer dans ce genre de discussion parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Est-ce que l'enfant aime réellement sa mère? Est-ce que c'est uniquement une dimension instinctive, ou est-ce qu'il y a une conscience chez l'enfant de l'amour qu'il a pour sa mère? Parce qu'une expérience, une activité est proprement humaine lorsqu'elle est consciente. On aura l'occasion de le redire, une activité est humaine dans la mesure où elle implique l'action de l'intelligence et de la volonté. Donc elle est à la fois libre, consciente et responsable. Alors est-ce que l'enfant qui aime sa mère agit d'une manière proprement humaine? Ou est-ce que la conscience ne s'éveille pas chez l'enfant avec l'imitation? L'imitation. Et l'imitation, lorsque l'enfant imite, il commence un certain travail. Enfin, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que parmi toutes les expériences, parmi toutes les activités, l'activité du travail est certainement celle qui conditionne le plus notre vie. On voit bien, je crois qu'on passe beaucoup plus de temps, normalement, à travailler qu'à aimer. Donc cette expérience conditionne vraiment notre vie et elle est une activité tout à fait fondamentale. Bon, pourquoi réfléchir sur le travail? Parce que dans notre monde aujourd'hui, il y a de grandes tentations, et notamment d'abord la tentation de réduire l'homme à son activité scientifique. L'homme aujourd'hui est très, très souvent réduit à l'homo scientificus, c'est-à-dire l'homme comme serviteur de la science, et la science comme un certain absolu pour l'homme. Donc il s'agit quand même de comprendre quelle est la place de l'homme par rapport à la science. Est-ce que l'homme est au service de la science, ou est-ce que la science est au service de l'homme? Bon, il y a aussi la tentation de réduire l'homme à la machine. C'est une conséquence, mais c'est plus la réduction de l'homme à la science, c'est la réduction de l'homme à la technique. On voit ça dans certaines sociétés. C'est les machines qui travaillent, et les hommes sont là pour surveiller le bon fonctionnement de la machine. Alors, est-ce que c'est encore un travail? Lorsque je surveille une machine, c'est une activité volontaire. Je suis attentif à tous les boutons qui sont là. Alors, est-ce qu'ils sont éclairés avec une lumière verte ou avec une lumière rouge? Quand ça devient rouge, ça devient dangereux. Alors, je ne sais pas comment réagir, mais je réagis en appelant les pompiers ou les techniciens ou peu importe quelqu'un. Donc, la réduction de l'homme à la machine. Et puis aussi, on voit ça de manière très flagrante aujourd'hui, la réduction de l'homme à son emploi. Est-ce que je me définis par mon emploi? Est-ce que je dois identifier emploi et travail? Est-ce que lorsque je cesse d'être employé, je ne peux plus être employé, et donc je cesse d'être un homme? Bon. Donc il s'agit pour nous de voir comment le travail, le véritable travail, qui est un travail humain, alors on va essayer de voir ce que c'est qu'un travail proprement humain, ce qui fait que le travail que j'accomplis est réellement quelque chose d'humain, donc qui me permettra de m'épanouir. Donc on va essayer de voir ce qui fait qu'un travail puisse être le moyen d'un épanouissement pour l'homme. Alors, il ne s'agit pas pour nous de faire une réflexion psychologique. On ne va pas parler du vécu du travail pour voir comment je serai psychologiquement bien en fonction du travail que je ferai. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas non plus une réflexion historique. Bien que, vous voyez, quand on réfléchit sur l'art nous révèle beaucoup de ce qu'est l'homme.
Par exemple, on ne peut connaître la préhistoire de l'homme qu'à partir des œuvres d'art que l'on peut découvrir. L'art nous permet de découvrir quelque chose de l'homme préhistorique. Et indépendamment de ces œuvres d'art qu'on découvre, on ne peut rien savoir. Mais ce n'est pas le but de notre recherche. Bien qu'on pourra, on verra tout à l'heure, on va essayer d'utiliser deux philosophes contemporains pour essayer de comprendre un petit peu certaines choses, justement les confusions, ou alors disons le lien qu'il y a entre l'homme et le travail. On va regarder chez Marx et chez Nietzsche deux conceptions différentes de l'activité artistique, ce qu'est le travail pour l'homme, qui devient deux absolus chez les deux. Enfin, ce n'est pas non plus une réflexion phénoménologique. Pourquoi ? Parce que nous sommes en philosophie. La phénoménologie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une description du vécu. On essaye de décrire ce que l'on vit à travers l'expérience du travail. Alors, bien sûr, on doit se référer continuellement à notre expérience, sinon notre philosophie n'est pas réaliste, c'est de l'idéologie. Mais on ne reste pas aux données de l'expérience du travail. On doit essayer de le dépasser, de l'approfondir, pour essayer de découvrir les causes propres de cette activité du facere. Bon, je disais tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'expressions qu'on peut utiliser pour parler de la philosophie du travail. En fait, celle qui est la plus large, c'est l'activité artistique. Mais en ne réduisant pas le mot artistique aux beaux-arts, la philosophie qui se limite à la connaissance des beaux-arts, c'est ce qu'on appelle la philosophie esthétique. Du reste, l'expression de philosophie esthétique est née assez tardivement chez un philosophe allemand, un disciple de Leibniz, Baumgarten. Si vous préférez, un Baumgarten. Ça s'écrit Baumgarten. C'était donc un disciple de Leibniz et qui a été le premier à offrir une réflexion spécifique sur le beau. La philosophie de l'activité artistique est quelque chose de beaucoup plus large, qui comprend bien évidemment la réflexion sur le beau, parce que nous verrons que l'activité artistique se termine dans la production de l'œuvre et dans le jugement de valeur que l'artiste ou l'artisan, ou l'homme si vous voulez, pose sur son œuvre. Alors évidemment, quand on fait l'analyse de l'activité artistique, on aura à se poser la question de savoir ce que représente le beau dans l'œuvre. Est-ce que l'œuvre a une signification? Qu'est-ce que c'est que le beau? Est-ce que l'œuvre artistique a un sens? Est-ce qu'elle a une finalité pour l'autre? Est-ce qu'elle a une signification pour les autres? Etc. Donc nous prenons l'activité artistique au sens large, définie donc comme la production d'une œuvre. On verra tout à l'heure la différence qu'il y a entre l'activité artistique et l'activité volontaire. L'activité artistique a une finalité qui est extrinsèque à l'homme, c'est l'activité de fabrication. On fabrique quelque chose d'autre que nous, l'œuvre. Alors qui peut avoir des modalités tout à fait différentes, on y reviendra. Tandis que l'activité volontaire a une finalité qui est immanente. L'activité volontaire, lorsque j'aime une personne, la finalité de cet amour, c'est justement la possession du bien aimé. Donc c'est dans mon cœur, normalement. Donc l'activité artistique recouvre l'ensemble des activités efficaces de l'homme. On verra dans l'activité volontaire, le but de l'activité volontaire n'est pas l'efficacité. Je n'aime pas mon ami pour le transformer. Ou je n'aime pas mon ami pour être plus efficace. Dans la véritable amitié, ce n'est pas ça. Tandis que l'activité artistique demande à être efficace. Lorsque vous venez de Paris à Rimont, il vaut mieux utiliser un moyen de locomotion qui vous permettra d'arriver. Donc l'activité artistique s'achève dans la production efficace d'une œuvre. Et elle consiste toujours dans la transformation d'une matière. Dans l'activité artistique, qu'est-ce qui se passe? L'homme essaye de donner une nouvelle forme à une matière qui lui préexiste. La matière est avant moi. Donc, cette transformation consiste justement à donner une nouvelle forme à une matière. Et donc, dans l'activité artistique, il y a toujours cette dualité, l'homme qui travaille et l'univers matériel qui est en face de lui et qu'il essaye de transformer. Alors, normalement, cette transformation se fait dans une sorte de coopération avec la nature. On verra que chez Marx, ce rapport de l'homme à la matière n'est pas conçu comme une coopération, mais il est conçu comme une lutte. C'est un rapport dialectique chez Marx, tandis que normalement, dans la perspective de la philosophie réaliste, cette coopération, ce rapport est un rapport de coopération, c'est-à-dire je respecte l'ordre de la nature. La matière a un ordre qui lui est propre, un certain nombre de déterminations qui lui sont propres, et je me dois de respecter cet ordre naturel. C'est très important parce que si je ne le respecte pas, à un moment donné, la nature au début se laisse faire, et puis à un moment donné, elle réagit. Alors, c'est tous les problèmes qui se posent à nous quand on réfléchit sur, par exemple, l'utilisation de l'énergie nucléaire. On ne sait jamais comment ça peut réagir à un moment donné ou à un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser ces réactions jusqu'au bout. Ça c'est un exemple. Alors, l'activité artistique est différente du travail. Elle est plus vaste que le travail. L'activité artistique comprend le travail, mais le travail n'est qu'une phase de l'activité artistique. Lorsque vous faites quelque chose, le facere, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, vous travaillez, mais avant de travailler, normalement, vous avez pensé. Vous avez pensé à ce que vous allez faire et vous avez conçu un projet. Donc il ne faut pas réduire l'activité artistique à l'activité du travail. Mais évidemment, l'activité du travail en est la dimension la plus apparente. C'est celle qui manifeste le plus ce qu'elle est. Le travail, c'est donc le moment de la production et de la réalisation de l'œuvre. Alors, donc le travail en est la phase ultime, qui s'achève donc dans la réalisation de l'œuvre, et elle est la dimension la plus manifeste de l'activité artistique. Mais elle présuppose toute une activité beaucoup plus intérieure qui consiste justement à concevoir, concevoir ce qu'on va faire. Et non seulement à concevoir, mais ensuite à choisir ce qu'il faut pour réaliser ce qu'on a conçu. Donc l'activité artistique est quelque chose de complexe. Alors, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faudra essayer de répondre, à savoir quelle est la place de l'activité artistique dans l'ensemble des activités humaines. On a vu qu'elle est certainement une activité tout à fait fondamentale parmi toutes nos activités, qu'elle peut conditionner toutes les autres activités, mais il s'agira de la situer par rapport aux autres activités. Est-ce qu'elle est parmi les activités humaines la plus parfaite? Ou est-ce qu'au contraire, elle est la moins parfaite, puisqu'elle implique un contact avec la matière? Nous qui sommes des grands esprits, le fait de nous salir les mains avec la matière, est-ce que ce n'est pas en fait une activité avilissante pour l'homme? Moi, comme je suis un pur esprit, je préfère beaucoup de beaucoup l'activité volontaire, parce que quand j'aime, là je ne me salis pas les mains, et c'est une activité très 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 spirituelle. Bon, est-ce qu'elle est la plus parfaite, ou au contraire est-ce qu'elle est la moins parfaite? Est-ce qu'elle est vraiment humaine? C'est une question qu'on aura à se poser tout à l'heure, à savoir si l'activité artistique est en fait une activité humaine. Ou est-ce qu'au contraire, ce qui ne la rend pas humaine, c'est pas plutôt l'activité volontaire qui est inclue, dans l'activité artistique, dans le travail. Le travail, c'est une punition du péché. On peut le concevoir comme ça. Alors Dieu nous punit par quelque chose qui est inférieur à nous, en nous obligeant à suer et à transpirer en travaillant. Alors est-ce que c'est vraiment quelque chose d'ennoblissant pour l'homme? Est-ce que c'est pas plutôt une punition, et toute punition, suivant certaines conceptions, ne sont pas toujours ennoblissantes pour l'homme? C'est l'équivalent de la chicotte. Est-ce qu'elle est la finalité ultime de la vie de l'homme? La question que doivent se poser tous les chômeurs. Est-ce que le travail est la finalité ultime de la vie de l'homme? Donc je perds mon emploi, je me suicide. Est-ce qu'elle est la seule activité authentiquement humaine? Mais au préalable, il faudra donc nous poser la question de savoir si elle est une activité authentiquement humaine, et évidemment, pour cela, répondre à ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est comme activité? Quelle est sa structure propre? Alors, nous allons d'abord commencer par voir quelques positions actuelles sur l'activité artistique. Très rapidement. L'activité artistique, donc, comme on l'a souligné, revêt dans la culture contemporaine une importance exceptionnelle. Quand vous pensez que, évidemment, le communisme vient de s'écrouler, mais le nombre de millions de personnes qui ont vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années sous cette idéologie du travail. Et la structure sociale du marxisme dépend justement de la conception de la philosophie du travail. Et l'homme est uniquement réduit à cette dimension-là. On va le voir. Donc, les deux philosophes les plus importants de l'époque contemporaine quant à notre sujet, c'est Marx et Nietzsche. Alors, tout d'abord, la conception marxiste du travail. Alors, qu'est-ce que le travail pour Marx? Marx définit le travail comme étant une activité propre à l'homme. Marx fait quand même la différence entre un homme et un animal. Et justement, cette distinction se situe au niveau de l'activité du travail. Donc, c'est une activité propre à l'homme par lequel celui-ci transforme d'une manière plus ou moins efficace la matière. Alors, vous remarquez tout de suite à partir de cette définition que le travail est réduit uniquement à l'activité technique de transformation. Donc quand on définit le travail comme étant l'activité propre par laquelle l'homme transforme d'une manière efficace la matière, donc on réduit le travail à l'activité technique de transformation, à la production d'œuvres utiles plus ou moins perfectionnées. En quelque sorte, si vous voulez, la finalité du travail est la transformation. Alors vous voyez tout de suite par derrière la distinction entre la philosophie du devenir et la philosophie de l'être. De ce qu'on cherche, c'est le devenir, la transformation, mais sans savoir s'il y a finalement un terme à cette transformation. Je pense qu'un bon philosophe réaliste, immédiatement, vous avez compris que le travail se définit par sa fin, à savoir l'œuvre. Et la transformation est le moyen par lequel j'arrive à l'œuvre. Autre chose est de définir le travail par la transformation elle-même, la praxis, on verra. Autre chose est de définir le travail par la fin du travail, à savoir l'œuvre. Et il exclut tout de suite les beaux-arts. Pourquoi ? Parce que les beaux-arts sont pour lui non pas une activité fondamentale de l'homme, mais le reflet idéologique d'une société donnée. Alors c'est toujours dans la bourgeoisie que se développe l'art. Il n'y a pas l'art du prolétariat. C'est vrai, quand on regarde l'art que le communisme a généré, on comprend quelque chose. Donc c'est certainement par là qu'il se condamne lui-même. Quand on regarde la pauvreté de l'art marxiste, on voit donc la pauvreté de l'idéologie elle-même. Bon, donc le travail se définit essentiellement chez Marx dans ce rapport de l'homme à l'univers. Et comme on disait tout à l'heure, ce rapport de l'homme à l'univers n'est pas un rapport de coopération. C'est un rapport de lutte. C'est un rapport dialectique. Un rapport de contradiction. Et ça, c'est capital pour comprendre Marx. Vous comprenez que Marx ne peut pas dire qu'il y a dans la nature une loi naturelle. Il ne peut pas dire qu'il y a un ordre dans la nature. Il ne peut pas dire qu'il y a des déterminations propres à la matière. Parce que s'il dit ça, il est obligé de se poser la question d'où vient cet ordre, d'où viennent ces déterminations. Et comme ça ne peut pas venir de l'homme, puisque c'est quand même avant nous, la nature est avant nous, ben, en ce sens-là, on est obligé d'affirmer l'existence d'un créateur. Et comme il n'est pas question pour Nietzsche, pour Marx, d'affirmer l'existence du créateur, on ne peut pas affirmer l'existence d'un ordre naturel. Aristote dit toujours que le propre de l'intelligence est d'ordonner. Donc partout où vous découvrez un ordre, vous êtes obligé de mettre avant cet ordre une intelligence qui a pensé cet ordre. Alors si vous mettez un ordre dans la nature, ben, vous mettez l'existence de Dieu. Et évidemment, Marx, comme Nietzsche après, ne peut pas accepter de dire qu'il y a quelqu'un d'autre que l'homme qui soit créateur. Pour Marx, la matière donc n'est pas une nature qui implique ordre et détermination. La matière est pure limite à l'activité de l'homme. Et donc, elle est un obstacle que l'homme doit perpétuellement essayer de dépasser. C'est pour ça qu'il y a cette conception d'une lutte dialectique. Donc, je dois, par mon activité fabricatrice, essayer de dépasser continuellement les limites que la matière offre à mon activité. Donc, c'est pour ça que c'est un rapport de lutte. Donc ce qui est présupposé, c'est évidemment la vision que l'homme qu'a Marx. Marx fait du travail un absolu. Et il fait du travail un absolu, pourquoi ? Pour concevoir l'homme comme un être pleinement autonome. Il y a toujours cette idée, évidemment, que dans ce combat, cette lutte avec la matière, l'homme s'affirme comme supérieur, donc comme autonome. Donc, il veut concevoir l'homme comme un être pleinement autonome et donc comme un créateur. Toujours cette nostalgie. Il faut qu'il y ait un créateur. Donc, quand vous niez Dieu, il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit créateur et c'est l'homme. Ce désir d'une liberté absolue. Elle ne sera jamais absolue. Et pour cela, pour que l'homme soit affirmé comme créateur, il faut absolument nier l'existence de tout ordre. S'il y a un ordre qui est présupposé à l'activité créatrice de l'homme, hein, à ce moment-là, cette activité transformatrice n'est plus un absolu. Donc pour que l'homme soit créateur, il faut que son activité fabricatrice soit un absolu. Et pour qu'elle soit un absolu, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui lui soit présupposé et qui va limiter son activité. Il faut qu'il y ait une potentialité infinie dans cette capacité à transformer l'univers. Alors si vous mettez quelque chose de présupposé, elle n'est plus infinie. Donc ainsi, pour Marx, le travail est une activité sans limite. Elle est sans limite. Pourquoi ? Parce que, en fait, les limites que la matière impose à l'homme ne sont que provisoires. Il y a toujours une certaine conception eschatologique. Il viendra un moment donné où il n'y aura plus de résistance de la matière face à l'homme. L'homme aura tout conçu et tout fait pour dépasser toutes les limites de la matière. Et donc le travail permet le libre déploiement de la puissance de l'homme. Que ça soit cette puissance, qu'elle soit l'énergie physique ou l'énergie intellectuelle. Le travail permet le libre déploiement de la puissance de l'homme. Évidemment, vous voyez le rapport, la toute puissance de Dieu dans la création. Et puis alors, bon, comme elle est niée, on va essayer de transférer chez l'homme cette toute puissance. Alors, de même qu'il n'y a pas de nature matérielle, il n'y a pas non plus de nature humaine. C'est aussi très important de comprendre ça. De même qu'il n'y a pas de nature matérielle, il n'y a pas de nature humaine. En transformant la matière, l'homme se transforme lui-même. Non seulement il est créateur d'un ordre nouveau à l'extérieur de lui, mais il se crée lui-même. Donc en transformant la matière, l'homme se transforme lui-même. Il est son propre créateur. Et c'est pour cela que le travail est autoproduction de l'homme. Autoproduction, autoréalisation de l'homme. C'est dans le travail que vous devenez vous-même, que vous devenez homme. Donc évidemment, vous comprenez bien que non seulement le travail est l'activité fondamentale de l'homme, mais elle est pratiquement l'unique activité de l'homme. Elle est la seule activité qui soit authentiquement humaine. Et elle est même presque surhumaine, puisqu'elle elle doit aboutir à la fabrication du surhomme. Donc le travail chez Marx est un absolu. Et c'est de cette activité que vont découler toutes les autres activités. Alors, il y a un certain nombre de thèmes qui découlent de cette conception du travail. D'abord, le premier thème, qui est le thème de l'aliénation. Vous savez certainement que ce thème de l'aliénation a été développé surtout chez Feuerbach, et donc a été repris après Feuerbach dans la plupart des athéismes contemporains. Feuerbach a écrit un livre qui s'appelle « L'essence du christianisme » dans lequel il développe cette théorie de l'aliénation qui est très simple. L'homme se méconnaît, il ne sait pas ce qu'il est. Alors il invente un sujet qu'il appelle Dieu et auquel il attribue ce qui revient en fait à l'homme. Lorsqu'il dit que Dieu est créateur, il se dépossède de quelque chose qui lui est propre. En fait, c'est l'homme qui est créateur. Mais comme il a peur, etc., alors il attribue à quelqu'un qui l'invente, donc Dieu, justement, cette création. La toute-puissance, elle est en l'homme. Mais il l'attribue à Dieu. Et alors, du coup, il a peur de Dieu. Et ayant peur de Dieu, il a en fait peur de lui-même. Puisque c'est lui-même qui est tout-puissant. Etc. Donc, c'est ça la théorie de l'aliénation. L'homme s'aliène, il s'ampute de ce qu'il y a de plus grand en lui. Alors, cette théorie de l'aliénation, Marx l'a évidemment reprise. Et c'est donc le thème qui est au point de départ de toute sa réflexion philosophique. Alors, l'homme est aliéné et son aliénation est de différents types. Elle est évidemment religieuse, elle est aussi économique et elle est aussi politique. Mais pour Marx, quelle est en fait parmi ces différentes aliénations, quelle est l'aliénation la plus profonde? Au point de départ, Marx regarde l'homme primitif. L'homme primitif est un homme essentiellement dépendant. Donc, il est dans un état de primitive impuissance. L'homme primitif est extrêmement dépendant. Ça, c'est quand même vrai. Avec le progrès de la technologie, des sciences, etc., on est de plus en plus indépendant. Puisqu'on est même capable de se créer des milieux de vie à l'extérieur de notre système. Donc, l'homme primitif est dans un état de primitive impuissance. Cet état d'impuissance de l'homme face à l'univers matériel rend raison, en fait, de toutes les aliénations. C'est à cause de cet état de primitive impuissance que l'homme a essayé d'inventer un certain nombre de structures pour justifier, si vous voulez, cet état d'impuissance. Cet état de dépendance. Alors il a notamment créé donc cette l'aliénation religieuse. Il a créé les traditions religieuses pour justement se justifier cet état d'esclavage qui ne fait qu'accentuer du reste l'état de dépendance. Donc cet état d'impuissance de l'homme face à l'univers matériel rend raison des aliénations. Ces aliénations sont autant de projections dans des réalités illusoires d'une puissance que l'homme n'exerce pas encore pleinement. En fait, la puissance, justement, cette capacité à nous rendre indépendants par rapport à la matière, elle est en l'homme. Mais l'homme, avant d'en prendre conscience, bon, grâce à Marx, l'homme en a pris conscience, parce que Marx est déjà il y a quelques années, mais en fait, c'est par la philosophie et par l'activité, donc par le travail, par la praxis, que l'homme va se libérer. Mais entre-temps, il avait trouvé des moyens d'essayer, plus ou moins, d'échapper à cet état d'impuissance. Ou alors, peut-être pas d'y échapper, mais d'être dans l'illusion d'y échapper. En inventant un Dieu rédempteur et donc un monde plus tard, comme si on allait être heureux plus tard et qu'il fallait souffrir au contraire pour pouvoir accéder à cet autre monde. Donc continuer à rester et même s'engouffrer encore plus dans cet état de dépendance et d'esclavage. C'est la pensée de Marx. Alors donc le sauveur pour Marx, ce n'est pas notre sauveur, c'est le travail. C'est par le travail que l'homme se libère progressivement de ses aliénations.
Et encore une fois, je vous rappelle que le travail étant toujours conçu comme cette praxis, cette transformation de plus en plus efficace. Alors évidemment, il y a quelque chose de Marx qui se retrouve pas seulement dans le marxisme, mais même chez certains scientifiques. Le salut par l'ordinateur, le salut par l'informatique, etc. Bon, ensuite, deuxième, parmi ces thèmes qui sont liés à cette conception du travail, le travail a une dimension qui est nécessairement sociale. Le travail a une dimension qui est sociale. Vous ne travaillez pas seul. En fait, il nous arrive de travailler seul, mais avec le développement de l'histoire, le travail est devenu de plus en plus social. La dimension sociale du travail aujourd'hui devient quelque chose d'extrêmement important, de plus en plus important. Au début, c'était la famille, ensuite c'était la tribu, après ça a été la cité, après ça a été l'État. Après, les cités se sont réunies, ça fait les provinces ou les régions. Et puis maintenant, c'est les États qui s'unissent. Et donc, avec les tentatives de réunification, des grands marchés qui réunissent un certain nombre d'États, et maintenant, on arrive au sommet, puisque c'est l'organisation mondiale, avec le GATT. Donc ça devient quelque chose de... Alors, je ne sais pas ce qui reste. Comme on n'a pas encore découvert d'autres planètes où il y a aussi une vie économique, la prochaine étape, ce sera le super GATT, ce sera entre les planètes. Organisation entre planètes. On verra ce que sera l'exception culturelle à ce moment-là. On aura des petits martiens qui vont envahir nos écrans de télévision. Bon. Mais c'est très impressionnant. Alors, donc le travail a nécessairement une dimension sociale. Et chez Marx, l'homme, en fait, est réduit à sa seule dimension sociale. Il est réduit à sa seule dimension communautaire. L'homme est conçu comme l'individu à l'intérieur du tout. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement l'individu en soi, c'est le tout. Et vous ne comptez que par rapport au tout. Alors quand vous êtes nuisible pour le tout, on vous liquide. Camp de concentration, quand on ne peut pas faire autrement. Donc, comme on l'a vu, chez Marx, le travail étant l'activité fondamentale et essentielle de l'homme, c'est bien évidemment le travail, la structure du travail, le travail qui va structurer l'organisation de la société, qui va même déterminer cette organisation de la société. La société est en vue du travail, puisque le travail est l'activité la plus essentiellement, pratiquement l'unique, l'activité fondamentale de l'homme. Donc l'organisation du travail va déterminer l'organisation de la société. Et donc l'ensemble des activités que l'homme exerce au sein de la société. Parce que ce qui intéresse le marxisme, dans les activités de l'homme, c'est les activités que l'homme exerce dans la société, pour la société. Comme la contemplation n'a pas une dimension sociale, on l'élimine. Ainsi, le mode de production, le mode de production, donc qui est en fait le mode par lequel l'homme exerce son travail. Donc c'est le travail de la société, si je puis dire. Donc ce que Marx appelle l'infrastructure. Donc le mode de production, qui est ce rapport de l'homme à la matière, détermine le mode d'organisation du travail ou de la société. Ce que Marx appelle la structure. L'infrastructure détermine la structure. Le mode de production détermine le mode d'organisation du travail ou de la société. Ainsi que toutes les autres activités humaines, que Marx appelle les superstructures. lesquelles ces différentes superstructures ont une autonomie tout à fait illusoire chez Marx. Enfin, le dernier point sur Marx, qui est aussi très important, puisque la technique évolue, le mode de production évolue. Et la technique évoluant perpétuellement, le mode de production évolue perpétuellement. Et la conséquence, c'est que le mode d'organisation de la société lui-même est appelé à évoluer perpétuellement. D'où la nécessité de la révolution. Et la conséquence, non plus pour la société, mais pour l'homme, c'est que l'homme est un être essentiellement historique. Voilà, on va se retrouver dans un quart d'heure.
Session de philosophie de l'activité artistique à Rimont par le père Jean-Marie Laurent, le 22 décembre 1993, deuxième conférence.
Pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez un peu approfondir la philosophie de l'art, vous avez deux lieux. Un premier lieu chez le père Philippe, évidemment. Dans Lettre à un ami, vous verrez qu'il y a le chapitre 3. Qui est très bref, 1, 2, 3, 4 pages, donc qui nous donne un très rapide aperçu de ce qu'est la philosophie du travail ou la philosophie du facere, mais surtout son autre livre, donc Philosophie de l'art, qui reprend toute l'analyse de la philosophie donc du travail, avec au début un certain nombre de conceptions sur l'art, sur les différents artistes et philosophes, et puis ensuite l'analyse elle-même de la structure de l'activité artistique avec l'expérience artistique, la contemplation artistique, l'inspiration, le choix, le travail, et enfin l'œuvre et le jugement de valeur qu'on porte sur l'œuvre. Donc très bonne lecture, recommandée. Bon, j'espère que vous comprenez bien ce qu'on est en train de faire. Le but n'est pas d'abord de comprendre Marx, on ne fait pas un cours de philosophie sur Marx, mais à partir de la conception de Marx, ça nous permet de mettre un peu en relief ce que peut devenir le travail lorsqu'il est conçu comme un absolu. Et comment Marx donc met l'absolu sur cette activité du travail et réduit en fait à cette dimension de transformation, donc d'efficacité. Au fond, sans véritable analyse sur l'œuvre en tant que telle. Ce n'est pas ça qui compte. C'est le devenir du travail dans cette praxis, dans cette dialectique avec la matière, et qui a pour conséquence une transformation de l'homme lui-même. Donc l'homme qui s'affirme comme créateur et comme, en fait, créateur de lui-même. Avec toutes les conséquences que ça a, parce que, vous voyez, le travail est premier même par rapport à l'homme. L'activité de transformation est première par rapport à l'homme. Or, je regrette, quand je travaille, c'est quand même moi qui travaille. Donc, je crois qu'il y a quand même un primat, normalement, de l'homme sur le travail. C'est l'homme qui travaille. L'homme n'est pas la fin du travail. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire en disant ça. la fin du travail, c'est l'homme. Mais il n'y a pas un absolu du travail par rapport à l'homme. L'absolu, il est du côté de l'homme. C'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui aime, c'est l'homme qui contemple, c'est l'homme qui pense, etc. Et la société est pour l'homme. Tandis que chez Marx, évidemment, l'homme est noyé dans la société. Donc j'étais en train de finir cette vision sur Marx à partir de cette conception tout à fait étonnante et tout à fait logique à partir du moment où on a accepté les principes de Marx, à savoir que l'évolution du travail est la cause de l'évolution de l'homme. L'homme est un être essentiellement historique, c'est-à-dire qu'il n'est que le produit de son activité transformatrice. Alors, est-ce que vous vous définissez par votre activité transformatrice? Alors, évidemment, quand on transforme tout un couvent, etc., qui était en ruine et dans lequel on campe, il y a une activité transformatrice. Alors là, on se définit quand même. Regardez ce qu'on a fait. Si vous aviez vu comment c'était quand on est arrivé et comment c'est maintenant, alors on dira c'est formidable. Bon, donc c'est quand même un peu inquiétant. L'homme n'est que le produit de son l'activité transformatrice, laquelle évidemment évolue perpétuellement. Donc l'homme, pour Marx, est pure évolution. Alors évidemment, quand vous vous basez encore sur les principes d'Aristote pour réfléchir, vous êtes à côté de l'évolution, donc vous êtes en dehors de l'histoire et donc vous êtes nuisible. Il y a donc chez Marx la négation de l'existence d'une nature humaine, parce que évidemment à partir du moment où vous acceptez l'existence d'une nature humaine, la nature humaine en tant que telle échappe à l'évolution. C'est ce qui demeure, la nature. Alors, vous avez un autre philosophe qui met aussi l'absolu sur l'activité créatrice, mais d'une manière totalement différente, c'est Nietzsche. Donc, deuxième point, deuxième philosophe, la vision nietzschéenne de l'art. Alors, comme pour Marx, en fait, l'homme est conçu par Nietzsche comme créateur. Pour ceux qui hésitent toujours, Nietzsche, c'est T-Z-S-C-H-E. Il y a l'ordre et puis le désordre. Mais il y a toutes ces lettres-là. Mais c'est mieux de les mettre dans l'ordre. Donc, comme pour Marx, l'homme est conçu par Nietzsche comme créateur. Mais l'ordre, la voie que prend Nietzsche est évidemment totalement différente de celle de Marx. Pour Nietzsche, l'activité de transformation de l'univers en elle-même est trop matérielle, donc telle que la conçoit Marx. Pour lui, la véritable activité artistique de l'homme, et en fait la véritable activité humaine, c'est la création artistique. Mais là, pris dans le sens un peu général du mot artistique, c'est-à-dire les artistes. Vous voyez, pour Nietzsche, Marx est quelqu'un qui est trop matériel. Il n'a rien compris à ce qu'est l'homme. La véritable activité humaine, c'est la création artistique. La création artistique, pour Nietzsche, est une véritable activité spirituelle. L'esprit de l'homme est engagé dans la création artistique. Alors, vous comprenez tout de suite la différence. D'un côté, vous avez Marx qui noie l'homme dans la société. Il n'existe que par rapport à la société, donc autant dire qu'il n'existe plus. Tandis qu'au contraire, si chez Nietzsche, lorsque vous l'entendez dire que l'absolu est au niveau de la création artistique, il y a une exaltation de l'individu en tant que tel. Ce qui compte, ce n'est pas la société, c'est l'individu lui-même. Mais cette création
artistique, en fait, doit être le produit, si vous voulez, de l'individu philosophe. Celui qui est capable de produire artistiquement, c'est l'artiste philosophe. C'est l'individu philosophe. Pour Nietzsche, la philosophie est création artistique. Alors, ceux d'entre vous qui sont artistes, devenez philosophes. Ceux d'entre vous qui sont philosophes, devenez artistes, tout en restant philosophes. Alors pourquoi ? Pourquoi dire que la philosophie est création artistique ? En fait, qu'est-ce qui caractérise la création artistique ? La création artistique est en fait une création de valeur. Et la philosophie doit devenir création de valeur. Et pour employer son langage, de valeurs affirmatives. On verra qu'il y a des valeurs affirmatives et des valeurs négatives. Mais la philosophie doit devenir création de valeurs affirmatives. Vous entendez souvent parler, lorsque vous entendez parler de Nietzsche, de la volonté de puissance. Nietzsche définit la vie comme étant volonté de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vivre, en fait, consiste à déployer une puissance, à déployer une énergie. Celui qui vit, c'est celui qui déploie son énergie. Donc, qui déploie sa puissance. Et c'est cela que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Ce déploiement de puissance, pour Nietzsche, est toujours création de valeur. Vous voyez bien vous-même, en grandissant, vous établissez une échelle de valeur. Quand vous quittez la maison, quand vous choisissez la vie que vous allez mener, vous la choisissez en fonction des valeurs que vous-même vous vous êtes fixées, que vous avez créées. Et c'est pour ça, suivant qu'elles correspondent ou qu'elles ne correspondent pas avec vos parents, ça se passe plus ou moins bien. Donc, ce déploiement de puissance est toujours création de valeur. Et elle est toujours création de valeur soit affirmative, soit négative. Alors, c'est très simple. Elles sont affirmatives lorsque, en fait, ces valeurs vont dans le sens d'une vie ascendante et négative, quand, au contraire, elles sont décadentes. Donc, cette volonté de puissance est toujours création de valeurs, soit affirmative lorsque elle est création de valeurs qui vont dans le sens d'une vie ascendante, d'une vie débordante de puissance. Lorsqu'on va voir votre activité, votre capacité créatrice, on va voir si vous êtes des hommes debout, comme on dit aujourd'hui, qui sont capables de créer, d'inventer. On va sentir des gens qui sont pleins de dynamisme et de vie. Ou alors, au contraire, cette volonté de puissance sera négative lorsqu'elle sera création de valeurs décadentes, signe d'une vie qui s'appauvrit et qui s'épuise. Alors, est-ce que vous êtes fatigué ? Les gens fatigués. Bon, comment Nietzsche, en fait, exalte-t-il l'activité artistique ? Il l'exalte en faisant la chose suivante. Il identifie l'activité artistique et l'activité volontaire. On va voir ce que ça signifie. Ou alors, plus précisément, en concevant la première sur le modèle de l'autre, c'est-à-dire plutôt la seconde sur le modèle de la première, que j'ai inversé l'ordre. C'est-à-dire qu'il conçoit l'activité volontaire, sur le modèle de l'activité artistique.
Vous voyez, c'est justement sur ce point de la création des valeurs qu'il arrive à faire l'identification entre les deux. Vous voyez, l'artiste, lorsqu'il a créé son œuvre, porte un jugement de valeur sur son œuvre. Est-ce que cette œuvre est belle? Est-ce qu'elle est valable? Etc. Tandis que l'homme moral, pour agir, il a une certaine règle d'agir, si vous voulez, en fonction des valeurs que lui-même que lui-même crée, si vous voulez. Alors, on voit très bien, les valeurs ne sont pas les mêmes suivant les cultures, etc. Bon, on va passer là-dessus. Mais vous comprenez là où peut se faire justement la confusion, ou alors le lien, comme vous voulez, entre l'activité volontaire et l'activité artistique. Mais alors, c'est là où lui les identifie. Il a tort, mais c'est là où il le fait. En fait, pour lui, le philosophe artiste est celui qui sera toujours capable de créer par-delà le bien et le mal. Par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire au-delà de tout idéal moral. Et de quelle manière? En créant des valeurs nouvelles. On a hérité d'une morale qui nous dit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Mais en fait, il faut dépasser cette morale, cette morale du bien et du mal. Et vous voyez, c'est quelque chose d'extérieur à nous et qui est reçu de la religion, en fait. Et comme Dieu n'existe pas et que la religion va contre justement, elle canalise cette volonté de puissance, elle l'empêche, elle empêche à la volonté de puissance de s'exprimer. Donc il faut créer des valeurs au-delà du bien et du mal, par-delà la morale traditionnelle, qui est une morale chrétienne, pour Nietzsche. Et cette création de valeurs nouvelles va permettre de façonner un être nouveau. De même que l'artiste façonne son œuvre, l'homme, le philosophe artiste façonne un être nouveau en créant des valeurs nouvelles. Mais en même temps, il ne faut pas être d'un optimisme béat. Le philosophe artiste doit comprendre la tragédie de l'existence. C'est un thème qui revient très souvent chez Nietzsche, le tragique. Il ne faut pas oublier que lui-même a fini étant fou. Donc pour lui, c'était encore plus tragique. On comprend que c'était peut-être un pressentiment. Mais donc le philosophe artiste doit comprendre le tragique de l'existence et doit être capable d'assumer et d'affronter justement tout ce que l'existence comporte de danger, tout ce qu'elle comporte de terrible, de douloureux. Il ne faut pas croire que le philosophe artiste va faire que l'homme ne souffre plus. La souffrance fait partie de l'existence. Notre existence est dangereuse. Et il y a toujours quelque chose de terrible. La mort reste quelque chose de terrible. Comme Marx, Nietzsche nie dans l'univers physique l'existence d'un ordre ou de quelconque détermination. Il dit, la nature doit retrouver sa figure originelle qui est le chaos. Et pourquoi ça? Pour que le philosophe, artiste, qui est face à cette nature originelle, puisse l'interpréter. Il revient au philosophe artiste d'interpréter la nature. Et qu'est-ce que signifie pour Nietzsche interpréter? En fait, ce n'est pas lire un sens qui est dans la nature, puisqu'il n'existe pas. Mais c'est lui assigner un sens. Interpréter, vous voyez, ça vient de moi. C'est moi qui assigne un sens à la nature, au monde dans lequel je me trouve. C'est à moi à donner son sens à l'existence. Et en fonction des valeurs que moi-même je me serai créé. Donc Nietzsche lit dans l'existence d'un ordre dans l'univers physique et il dit que la nature doit retrouver sa figure originelle qui est le chaos pour que le philosophe l'interprète, c'est-à-dire qu'il lui assigne un sens. Et voyez, là, c'est, donc on peut dire là, à ce moment-là une sorte d'activité morale, mais c'est tout à fait analogue avec l'art. Puisque dans l'art, en soi, le monde n'est pas une œuvre d'art, mais c'est l'homme qui transforme le monde et qui en fait une œuvre d'art. Évidemment, pour Nietzsche, le monde ne peut pas être une œuvre d'art, sinon il y aurait un créateur. Mais le véritable créateur du monde, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il dit, c'est par l'acte affirmatif et créateur du philosophe artiste que le monde devient une œuvre d'art. C'est par l'acte affirmatif et créateur du philosophe artiste que le monde devient une œuvre d'art. Vous voyez, déjà au niveau de l'artiste lui-même, lorsqu'il crée une statue, par exemple, il donne un sens au morceau de bois qu'il avait au point de départ. Alors c'est cette même conception, donc transformée, qui va beaucoup plus loin, de l'homme qui donne son sens au monde dans lequel il se trouve. Il n'a rien à recevoir de qui que ce soit. Je ne sais pas si j'ai là quelque part une affirmation de... Non, je ne l'ai pas là. Je vais vous lire ce passage. L'art, et rien que l'art, il est celui qui rend possible la vie, le grand séducteur qui entraîne à vivre, le grand stimulant de la vie. L'art comme le seul contrepoids vraiment supérieur contre toute volonté de négation de la vie, comme ce qui est anti-chrétien, anti-bouddhiste, anti-nihiliste, par excellence. L'art qui remplace Dieu. L'art comme la rédemption de celui qui connaît. Rédemption. L'art comme la rédemption de celui qui connaît, de celui qui voit le caractère terrible et douteux de l'existence, qui veut le voir, celui qui connaît tragiquement. L'art comme la rédemption de celui qui agit, de celui qui non seulement voit le caractère terrible et douteux de l'existence, mais le vit, le veut vivre. L'homme tragico-guerrier, le héros, ce que vous êtes. L'art comme la rédemption de celui qui souffre, comme voie vers des états où la souffrance est voulue, transfigurée, divinisée, où la souffrance est l'une des formes du grand ravissement. Évidemment, ce n'est pas la même souffrance que là-haut. C'est pas la même. Donc voyez, l'art comme rédemption de celui qui connaît, de celui qui agit, de celui qui souffre. Alors, vous voyez, à partir de ce qu'on vient de dire, comment la phrase de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, donc comment elle est interprétée par Nietzsche. Par l'activité artistique, l'homme redevient mesure de toute chose. C'est tout le problème de la connaissance. Est-ce que c'est moi qui mesure la réalité ou est-ce que c'est la réalité qui me mesure? Est-ce que c'est moi qui donne un sens à la réalité? Est-ce que je suis premier? Est-ce que ma connaissance est première par rapport au réel? Ou est-ce que c'est le réel qui est premier par rapport à ma connaissance? Est-ce que c'est moi qui donne un sens à la réalité? Ou est-ce que c'est la réalité qui me dit ce qu'elle est? Et j'essaye de le découvrir. Donc, vous voyez? Donc, le rapport chez Nietzsche, hein, le rapport de l'homme à la nature est conçu donc sur le modèle de l'activité artistique. L'homme qui transforme une matière. Mais le problème, c'est qu'il en restera là. Donc, cette assimilation de l'activité morale à l'activité artistique, il en parle dans la préface de La naissance de la tragédie. Voilà ce qu'il dit. C'est l'art et non la morale qui est présenté comme l'activité essentiellement métaphysique de l'homme. Au cours de ce livre se reproduit à diverses reprises cette singulière proposition que l'existence du monde ne peut se justifier que comme phénomène esthétique. Donc pour Nietzsche, agir de façon volontaire, c'est quoi? C'est créer. Donc réduction de l'activité volontaire à l'activité créatrice. Rien n'a de valeur en dehors de l'acte par lequel l'homme valorise. Rien n'a de valeur en dehors de l'acte par lequel l'homme valorise. Donc toute valeur provient de moi. Elle ne provient pas d'un autre. Alors, vous comprenez le rejet de la religion. Puisque Dieu vient m'imposer des commandements. Et il me dit de ne pas manger de ce fruit de l'arbre. Bon, donc je subis des valeurs qui me viennent de quelque chose d'autre que moi. Et à partir du moment où c'est quelque chose d'autre que moi, comme on est toujours dans un système dialectique, ben, ça veut dire qu'il est opposé à moi. Tout ce qui est autre que moi, je dois lutter contre. Alors on coupe Dieu, on lui coupe la tête. Et on crie que Dieu est mort. Voilà ce qu'il dit encore. En vérité, les hommes se donnèrent à eux-mêmes leur bien et leur mal. En vérité, ils ne le prirent pas. Ils ne le trouvèrent pas. Ils ne les écoutèrent pas comme une voix descendue du ciel. La Bible vous fait croire que tout ça vient du ciel. Mais en fait, ils ne l'entendirent pas comme venant du ciel. Ils ne le prirent pas, ils ne le trouvèrent pas. Ils ne les écoutèrent pas comme une voix descendue du ciel. C'est l'homme qui mit ses valeurs dans les choses. C'est lui qui créa le sens des choses, un sens humain. C'est pourquoi il s'appelle homme, c'est-à-dire celui qui évalue. Évaluer, c'est créer. C'est par l'évaluation que se fixe la valeur. Sans évaluation, la voie de l'existence serait creuse. Écoutez donc, vous qui êtes créateur. Retenez au moins ça de cette session, que vous êtes créateur. Et écoutez donc, vous qui êtes créateur. Bon, mais il y a un certain nombre de problèmes. Les valeurs actuelles sont en fait la création de l'homme, comme le, si on comprend bien, mais en fait d'une humanité dégénérée. Les valeurs actuelles sont l'œuvre d'une humanité dégénérée. Elles ont été inventées par les faibles, par la foule, par le troupeau, par les canailles, par les esclaves. Et elles ont été inventées, donc par tous ces faibles, pour se défendre contre les forts, contre les maîtres et les seigneurs. Afin de les réduire à l'impuissance. Les forts, c'est ceux qui veulent exprimer leur volonté de puissance, qui veulent vivre selon leur volonté de puissance, qui se savent créateurs. Mais jusque-là, ils n'ont pas réussi. Nietzsche ne dit pas qu'il est le premier. Mais jusque-là, tous les autres ont été écrasés, justement, par cette espèce de morale inventée par les faibles pour empêcher justement ces seigneurs, hein. Donc les philosophes artistes sont des seigneurs, des maîtres, des forts, et donc ils ont été réduits à l'impuissance par cette invention des faibles. Donc le premier travail du philosophe artiste est de briser les anciennes tables de valeurs. Vous voyez, on revoit encore le Moïse qui brise ces tables de la loi. Mais il faut aller plus loin. Il faut briser les anciennes tables de valeurs, s'affranchir des idoles que l'homme s'est créées. Au fond, c'est la religion et tout ce qui en découle. Tout l'héritage, hein, du christianisme. Puisque la morale occidentale, peut-être plus aujourd'hui, il ne parlerait plus tout à fait de la même façon, mais quand même encore il y a quelques années, hein, était vraiment l'héritage de tout ce passé judéo-chrétien. Donc il faut briser les anciennes tables de valeurs, s'affranchir des idoles que l'homme s'est créées. Et dès lors pourra naître une nouvelle morale et en même temps donc surgir une nouvelle humanité, pourra surgir le surhomme. La nouvelle humanité, celle du surhomme. Alors évidemment, si on montre, si on cite tout ça, c'est pour essayer de sensibiliser à la réflexion. Est-ce que la morale, c'est la même chose que l'activité artistique? Est-ce que la philosophie du travail, c'est la même chose? La philosophie du facere, c'est la même chose que la philosophie de l'agere? Est-ce que faire et agir, c'est la même chose? Est-ce que l'activité artistique et l'activité morale, hein, doivent s'identifier comme chez Nietzsche? Si elles s'identifient, vous voyez où ça peut mener. À ce moment-là, vous laissez les voiles et tout ça, et les habits, et puis vous essayez de casser tout ça. Il faut briser les tables de la loi, hein, briser la règle. Alors vous continuez à transformer votre couvent, parce que là, vous exprimez, hein, des valeurs. Voilà une dernière citation. L'homme noble possède le sentiment intime qu'il a le droit de déterminer la valeur et qu'il n'a pas besoin de ratification. N'allez pas voir votre supérieur. Quand vous pensez que ce que vous faites est bon, vous n'avez pas besoin de ratification. C'est Nietzsche, c'est pas moi. Ne faites pas de... C'est quand même très, très impressionnant. L'homme noble possède le sentiment intime qu'il a le droit de déterminer la valeur et qu'il n'a pas besoin de ratification. On comprend après le rejet de l'autorité. Il décide que ce qui lui est dommageable est mauvais en soi. Il sait que si les choses sont mises en honneur, c'est lui qui leur prête cet honneur. Il est créateur de valeur. Tout ce qu'il trouve dans sa propre personne, il l'honore. Une telle morale est la glorification de soi-même. Ah, vous comprenez pourquoi Nietzsche dit qu'il a horreur de l'humilité. Ben oui. Telle morale est la glorification de soi-même. L'humilité, c'est la morale des faibles. D'après Nietzsche. Alors qu'en fait, c'est tout à fait le contraire. Ce n'est que celui qui est fort qui est capable d'être humble. Voilà, on ne va pas trop s'attarder, mais vous voyez donc à travers Marx et Nietzsche, hein, deux positions totalement différentes et qui voient l'homme, au fond, toute l'activité de l'homme sous le modèle de l'activité artistique. Alors, l'activité artistique est conçue différemment chez Marx et chez Nietzsche. Chez Marx, elle est donc le travail dans sa dimension d'efficacité. Et essentiellement cette activité de transformation, tandis que chez Nietzsche, elle est beaucoup plus hein, l'activité des beaux-arts. Hein, et voyez le terme de cette activité, le jugement de valeur que l'artiste pose sur ce qu'il a créé. Hein, c'est ce qui l'intéresse le plus. Alors, il est bien évident qu'en réfléchissant sur l'activité artistique, il faudra essayer de voir ce que c'est, hein, que cette activité de transformation, l'importance de l'efficacité à l'intérieur de cette activité. Il faudra aussi essayer de comprendre ce qu'est l'œuvre et ce qu'est le jugement de valeur porté sur l'œuvre par l'artiste. Et puis aussi essayer de voir si on a le droit, oui ou non, de réduire l'activité volontaire à l'activité artistique. Si on a le droit d'identifier l'activité du facere et l'activité de l'agere. Donc la création des valeurs morales est-elle identique à la création la création de l'œuvre et le jugement de valeur qu'on pose sur l'œuvre. Bon, alors revenons à notre activité artistique. Là, on revient à un point de vue qui, normalement, est plus réaliste. Alors, il s'agit pour nous maintenant d'essayer de voir si l'activité artistique est une activité propre à l'homme. Parce que c'est quand même important. Est-ce que le travail est proprement humain? Vous avez certainement déjà vu, peut-être pas en direct, peut-être à la télévision, comment un castor essaye de construire sa petite baraque. Ben, c'est quand même, on a l'impression, un sacré travail. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un travail? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un travail relativement simple, et l'homme travaille d'une manière un peu plus complexe, parce que lui-même est un peu plus complexe, mais ce qui fait du travail une activité proprement humaine, ce n'est pas l'activité du travail en tant que tel, mais autre chose. Après cela, nous essayerons de voir les différentes modalités de l'activité artistique. Vous comprenez bien qu'il y a différentes modalités. On en a parlé. Il y a le travail de l'artiste en tant que tel, qui a pour finalité de produire une œuvre belle. En tant que tel, est-ce que l'œuvre belle est utile? Lorsque je fais une œuvre d'art, lorsque je peins un magnifique tableau, est-ce que ça a une utilité en soi? Non. Alors, il y a l'activité des beaux-arts, donc l'activité esthétique, si vous préférez. Bon, il y a le travail du cordonnier, l'artisan. Et puis, il y a un travail qui est beaucoup plus complexe, qui va en évoluant, effectivement, avec le développement de la technique. Le travail de l'artisan est intermédiaire entre ces deux travaux. Il y a le travail de l'artisan essaye d'allier à la fois l'utile et le beau, autant que possible. Et il sera un bon artisan lorsqu'il arrivera à allier parfaitement le beau et l'utile. C'est pour ça qu'un artisan, un véritable artisan, ne fait pas, généralement, pas deux fois la même œuvre. Tandis qu'au contraire, lorsque vous utilisez une machine extrêmement perfectionnée, vous verrez, vous aurez toutes les voitures qui vont sortir de la chaîne seront pratiquement identiques. Alors on les diversifiera uniquement par les numéros qu'on mettra dessus. Alors, évidemment, il y a maintenant, surtout maintenant, pour arriver à s'en sortir, une exigence de qualité. Parce que, comme la quantité dans l'œuvre utile qui est faite par la machine, la quantité ne permet pas de distinguer les œuvres, on essaye quand même de mettre une note de qualité pour que ça soit plus vendable. Mais on verra ça après. Bon, et après, il y aura donc à voir l'analyse proprement dite de l'activité artistique avec ses différents éléments. Alors, donc, première question, l'activité artistique est-elle une activité propre à l'homme? Alors, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui pensent que l'activité artistique est une activité infra-humaine, qui n'est pas vraiment humaine. L'homme est obligé de travailler, mais elle n'est pas en soi proprement humaine. Pourquoi ? À cause de son caractère pénible. Hein, le caractère pénible et laborieux du travail. Et donc, pour ces gens-là, le travail est une activité servile, indigne de l'homme libre. Alors, si vous voulez des exemples, vous regardez tout simplement dans la Grèce antique, hein, où le travail était réservé à l'esclave, hein, pour pouvoir permettre à l'homme libre, donc libéré des contraintes, hein, de la vie, de pouvoir s'adonner aux loisirs. Et les loisirs, c'était essentiellement l'activité politique. Donc, dans l'Antiquité grecque, l'esclave est l'homme du travail, tandis que l'homme libre est l'homme du loisir. Bon, en fait, tout cela est contraire à l'expérience. Si on a recours à l'expérience, hein, puisqu'on a déjà dit que la philosophie avait pour but d'essayer de me faire comprendre ce qu'est l'homme et donc ce que je suis. Et donc, pour mieux comprendre ce que je suis, ben, j'essaye de regarder ce que je fais. Donc, l'expérience du travail me montre quoi ? Me montre que c'est une activité authentiquement humaine et que c'est même l'activité la plus fondamentale de ma vie. Comment ? L'expérience m'enseigne que, en fait, par le travail, l'homme est en contact avec la réalité matérielle existante. Quand vous allez au bord de la mer et que vous faites des châteaux de sable, hein, sur la plage, vous êtes en contact avec le sable. Donc, il y a un contact avec la matière existante. Ça peut être un travail. Et ce contact avec le réel me permet d'échapper au débordement de l'imaginaire. Chaque fois que mon imaginaire me saisit, hein, trop, il faut que j'aille prendre une pioche et une pelle et puis que j'aille planter des choux. Ça me remet en face de la réalité. Ce contact avec la matière est très important. Il équilibre, en fait. On sent très bien quand on revient d'Afrique, hein, qu'on voit comment les gens qui vivent continuellement en ville ici, qui n'ont plus aucun contact avec la nature, sont complètement manquent d'équilibre. C'est très frappant. Alors, donc, il permet d'échapper au débordement de l'imaginaire et il permet un plus grand équilibre vital. C'est pour ça que notre évêque a un petit potager où il entretient ses fleurs. Mais c'est vrai, c'est très bien. Et alors, le travail est propre à l'homme. Hein. En fait, l'animal ne travaille pas. L'animal ne travaille pas et la machine ne travaille pas. Pourquoi ? Parce que le travail est toujours la réalisation d'un projet. Quand vous travaillez, hein, vous travaillez toujours parce que vous avez conçu un projet et vous essayez d'exécuter ce que vous avez conçu. Plus ou moins bien, avec plus ou moins de perfection, suivant vos qualités, etc. Mais en fait, le travail est toujours la réalisation d'un projet qui a été conçu par l'homme et dont il a eu l'initiative. Ça, c'est important. Un travail sera proprement humain lorsqu'il présupposera cela. Donc, lorsqu'il sera la réalisation d'un projet qui a été conçu et dont vous avez eu l'initiative. Et quand vous n'en avez pas l'initiative, au moins, vous avez participé à l'élaboration d'une manière ou d'une autre. Ou vous entrez dans l'intention de celui qui a l'initiative. Donc ça devient votre initiative puisque vous partagez cela avec l'autre. Tandis que chez l'animal, l'animal exécute un plan. Et ce plan, c'est toujours le même. Que ce soit à Rimont ou que vous allez à Yaoundé ou à Batouri au Cameroun, vous verrez que les hirondelles font leur nid exactement de la même façon. Tandis que les hommes construisent totalement différemment. Hein? Là où on a des cases, ici on a des maisons différentes. Hein? Alors que les hirondelles, c'est exactement la même chose. Hein? Donc l'hirondelle obéit à un déterminisme. Hein? Et l'homme au contraire, fait différemment. C'est très net. Très facile à montrer. Donc l'animal exécute un plan qui est toujours le même, qui est soumis au déterminisme naturel de ses instincts. Et l'animal ne peut pas y échapper. Tandis que, bon, nous aussi, on est d'une certaine manière soumis à un certain déterminisme, hein, qui provient aussi de nos instincts, mais on a la capacité d'y échapper. Ou de dominer, hein, ou d'orienter, etc. D'interpréter, comme dirait Nietzsche. Donc, le travail est quelque chose de spécifiquement humain. Il implique l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Lorsque vous élaborez votre projet, généralement, vous réfléchissez. Et après avoir réfléchi, vous vous dites, bon, ça y est, je m'y mets. Vous avez un travail de philosophie à faire, c'est un travail. Vous avez une œuvre à réaliser, un article en philosophie, ou une dissertation, ou je ne sais quoi. Ben, d'abord, vous pensez. Alors, il faut quand même passer un moment à l'action. Il faut rédiger. Alors, donc, entre le moment où vous avez conçu ce que vous allez faire et le moment où vous rédigez, ben, il y a eu un acte volontaire. Donc, il y a l'implication à la fois de l'intelligence et de la volonté. Et c'est justement par cet exercice de l'intelligence et de la volonté que vous dépassez, hein, le déterminisme de vos instincts. Et c'est très intéressant parce que c'est justement dans le travail qu'a lieu le premier dépassement du déterminisme de nos instincts. Ceux qui se laissent trop prendre par leurs instincts, hein, qui ne travaillent pas assez. Certainement ça.